Pilote de ligne, commandant de bord, ça donne des étoiles dans les yeux. C'est le métier que des élèves de 3e du collège Samuel Paty de Conflans-Sainte-Honorine ont choisi. Jean-Christophe Delalaye est venu répondre à leurs questions.
Bonjour à vous, vous êtes en présence de la classe de 3e 4 du collège Samuel Paty. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps pour vous interviewer à propos de votre métier de pilote de ligne. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter et ensuite on aurait quelques questions à vous poser parce que ce métier pourrait intéresser quelques-uns d'entre nous.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir au sein de votre collège. Donc, je suis Jean-Christophe Delahaye, je suis pilote de ligne pour une compagnie française et donc je suis là pour répondre à toutes vos questions. J'espère que ça intéressera déjà ceux qui ont posé beaucoup de questions sur le métier. Et également tous les autres, parce que je pense qu'on peut apprendre beaucoup de la profession de pilote et de l'expérience en général de tout métier.
Êtes-vous pilote dans une seule compagnie ?
Alors oui, je suis pilote dans une seule compagnie. Je travaille pour une filiale du groupe Air France. J'ai travaillé pour une autre compagnie qui est devenue ma compagnie actuelle par fusion. Donc en réalité, j'ai déjà travaillé pour plusieurs compagnies, mais je n'ai un contrat qu'avec une seule compagnie.
Quelles sont les études et les diplômes pour ce métier ? Comment se déroule la formation et comment obtient-on le permis de pilote ?
Alors il y a plusieurs manières d'arriver à la fonction de pilote. Alors il y a déjà c'est une formation qui est en gros sur 2 années. Elle peut se dérouler de façon, on va dire, décomposée, on va dire, pour la filiale aéroclub. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer par être pilote privé, on va faire des heures de vol en aéroclub. Toutes les heures de vol comptent dans la carrière, donc elles sont comptabilisées. Et ensuite, on continue pour être pilote professionnel, on continue les formations et on fait une formation théorique de pilote de ligne. Avec ce bagage, on a plus quelques autres formations annexes comme la formation aux instruments, on a le bagage nécessaire pour arriver dans une compagnie aérienne. Donc ça, c'est la première possibilité pour arriver au métier de pilote, donc par la filière aéroclub. Ensuite, il y a une autre possibilité qui consiste à passer le concours de l'ENAC, donc c'est l'École nationale de l'aviation civile, qui se fait avec des concours niveau maths sup, maths spé, et qui permettent d'avoir une formation qui est entièrement prise en charge par l'État. Et donc c'est une filière qu'on appelle royale, puisque on réussit un concours, on est pris en charge, on a la formation qui est payée, et en général, après cette formation, on trouve rapidement du travail dans l'aérien. Il y a d'autres filiales aussi qui sont faites par les compagnies aériennes, c'est-à-dire que les compagnies aériennes font un concours, une sélection, et ensuite, si on réussit cette sélection, on est pris en charge par la compagnie, et en retour, on a une obligation de travailler pendant quelques années pour la compagnie. Donc il y a des compagnies comme Ryanair et EasyJet qui font ce type de formation, Air France également. Il y a plusieurs grandes compagnies qui font ces types de formations. Donc il y a plein de possibilités pour arriver au métier de pilote. C'est pas juste une simple filière. Et souvent, on pense qu'à une filière, c'est la filière de l'ENAC. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont issues d'autres filières. Donc la formation. Donc il y a, on va dire par exemple, si on n'a pas du tout d'expérience, pas jamais volé, la formation, on va prendre ce qu'on appelle une formation intégrée. Donc on va rentrer dans une école, on va commencer par la formation de base, donc apprendre à voler sur un petit avion d'aéroclub, comme vous voyez dans le ciel régulièrement, qui ont 2 ou 4 places. Cette formation, elle va se dérouler sur plusieurs mois. Ensuite, en parallèle, on va faire de la formation théorique. Donc tout ce qui est les lois de pilotage, les lois de l'aérodynamique, la mécanique des fluides, d'électricité, de l'hydraulique, enfin tous les systèmes avions. On va avoir des formations sur la réglementation, sur plein de domaines différents pour arriver à des compétences assez complètes au niveau théorique. Et ensuite, il va y avoir une progression où on va avoir besoin de faire des heures de vol pour monter en compétences. Donc c'est des heures qu'on peut faire soit en aéroclub, soit dans l'école en question, soit parfois il y a des écoles qui nous envoient à l'étranger pour faire ces heures-là. Et une fois qu'on a ces heures, on revient pour continuer la formation. Et la formation, l'étape suivante, c'est la formation de pilote professionnel. Donc c'est pareil, une autre formation qui est dédiée, qui permet, une fois qu'on a cette formation, d'avoir la possibilité de trouver un travail, d'être professionnel comme pilote, mais qui va nous limiter parce qu'on va être professionnel sur un petit avion, donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire par exemple du tractage de banderoles, de la surveillance avec un avion ou des choses comme ça, mais qui vont pas avoir beaucoup de débouchés. L'idée, c'est d'après aller un petit peu plus loin, c'est de passer la formation de vol aux instruments pour voler dans toutes les conditions météo. Et ensuite, quand on a ce bagage-là, donc pilote professionnel, formation aux instruments, on peut postuler dans une compagnie aérienne qui fait de la ligne. Et ensuite, on continue la formation dans la compagnie aérienne. En gros, la formation de pilote, elle va durer à peu près 2 ans si on fait tout en compacté. Et si on prend notre temps ou si on fait différemment en aéroclub, moi j'ai commencé par exemple à l'âge de 15 ans et j'ai terminé ma formation, j'avais 25 ans. Donc j'ai mis 10 ans finalement. Mais tout en petits morceaux, pas de façon régulière. Et c'est très. Chaque parcours est différent.
Le métier consiste à piloter, le métier du pilote, mais il doit y avoir d'autres choses, à savoir par exemple faire des contrôles, appliquer des procédures, etc. Donc il faut connaître ces procédures ou ces règlements. Pouvez-vous nous en parler de ces règlements ?
Alors il y a beaucoup de choses à savoir. Au départ, on pense que le pilotage, c'est simplement piloter l'avion. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter à ça. Il y a tout l'aspect effectivement réglementaire, les règles de l'air, savoir ne serait-ce que quand il y a un autre avion qui arrive à proximité, comment on l'évite, les zones, les espaces aériens, toute la réglementation autour des aéroports. Enfin, il y a beaucoup de choses à savoir au niveau réglementaire, mais il y a aussi beaucoup de choses à savoir dans plein de domaines finalement. Et plus on va avancer dans la carrière, plus on va s'apercevoir que le pilotage, c'est une toute petite partie du métier de pilote. Quand on arrive en compagnie, on a, par exemple, la gestion des passagers. On n'a pas au départ, quand on fait du pilotage en aéroclub. On a tout ce qui est réglementaire au niveau international, tout ce qui est transport de marchandises dangereuses, tout ce qui est réglementation au niveau de la gestion du carburant, tout ce qui est gestion de l'avion, des systèmes. C'est un métier qui est très complet, très complexe, et où il y a aussi beaucoup d'interactions avec beaucoup de personnel. On travaille en équipe, on n'est pas tout seul, on a toujours une équipe derrière nous, aussi bien dans l'avion qu'au sol, et donc il va falloir s'occuper de toute cette gestion, cette organisation, et avoir une interaction. Donc finalement, plus on avance dans la carrière, plus la partie pilotage devient une petite partie du métier.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Alors, quand j'étais petit, j'avais un aéroclub qui était pas très loin de chez moi et j'allais très souvent voir les avions le week-end. Et de fil en aiguille, ça m'a permis de prendre des cours de pilotage et d'être inscrit à l'aéroclub et de faire des heures de vol. Une autre partie aussi qui m'a intéressé dans ce métier, c'est quand j'ai eu l'occasion de voyager en avion, j'ai vu une certaine organisation et qui m'intéressait un travail en équipe. Et je voyais, quand l'avion arrivait, du personnel qui plaçait l'avion sur le point de parking, du personnel qui calait l'avion, du personnel qui arrivait pour mettre les passerelles, embarquer, débarquer les passagers, le personnel pour faire le plein de carburant, le catering. Enfin, toute cette équipe, cette organisation en un temps très réduit, c'est ça aussi qui m'a intéressé dans le métier.
Quel type d'avion avez-vous l'habitude de piloter ?
Alors actuellement, je pilote des Embraer. C'est des avions qui sont fabriqués au Brésil. Et au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion de piloter donc beaucoup de petits avions de différents constructeurs, donc des avions qu'on trouve assez facilement dans les aéroclubs, type Cessna, Robin, beaucoup d'avions comme ça. Et ensuite, il y a le vrai avion sur lequel j'ai commencé ma carrière, c'est l'ATR, qui s'appelle Avion de Transport Régional, qui est construit à Toulouse. Et ensuite, j'ai également piloté des avions qui sont fabriqués au Canada, qui s'appellent CRJ, qui sont fabriqués par la société Bombardier.
Avez-vous déjà transporté des marchandises ?
Mon contrat de travail, il est avec une compagnie qui transporte essentiellement des passagers. Donc le cœur de métier, c'est vraiment le transport de passagers. Ensuite, il y a en parallèle du transport de fret, de marchandises, mais qui se fait en soute et en petite quantité, parce que sur les lignes sont parfois utilisées pour transporter du fret, mais ce n'est pas le cœur de métier.
Vous diriez que pour un collégien tel que, par exemple, l'un d'entre nous, quelles seraient les qualités requises dans ce domaine ?
Alors les qualités sont très larges, elles concernent vraiment toutes les matières. On a besoin d'avoir des connaissances un petit peu dans toutes les matières, dans tous les domaines, c'est-à-dire bon, souvent on se focalise sur les maths, mais c'est pas le cœur du métier, on en a besoin, mais c'est pas que ça. Comme je disais, on travaille en équipe, donc il y a un besoin aussi de relationnel, de contact social, d'échange, de travail vraiment dans une équipe à la fois dans l'avion, mais aussi au sol et avec la compagnie. Il y a aussi de l'écoute, qui est pas forcément une matière, mais c'est dans les qualités qui sont requises. Il y a des matières qui sont aussi importantes, tout ce qui est physique, au sens large, hein, que ce soit de l'électricité, de la thermodynamique, de l'hydraulique, enfin, plein de choses, des notions qui viennent autour de la mécanique, tout ça. Il y a des notions, on va dire même de français, d'anglais, voilà, pour des besoins de communication, des besoins de rapport. Il y a tout ce qui est autour de, on va dire, la réglementation, tout ce qui est droit, il y a des domaines très très différents et il faut avoir des compétences un petit peu dans tous les domaines. Donc c'est ça qui fait l'intérêt de ce métier, c'est que vraiment on touche à plein de domaines. Et donc pour le métier à proprement parler, il faut évidemment être à l'écoute, ça c'est très important. Être patient, parce que souvent il faut être patient, on va dire, au niveau de la carrière, parce que la carrière elle est parfois compliquée et il faut parfois attendre plusieurs années avant de trouver un poste qui nous convient. Donc il faut être patient pour avoir le métier. Ensuite, il faut être patient dans le métier parce que parfois on a des contraintes. Il peut y avoir un créneau dans 2 heures, il va falloir patienter 2 heures. Donc une patience, une certaine rigueur, parce que c'est important de suivre tout ce qui est réglementation, les procédures, donc il y a une rigueur. Une capacité de s'adapter, parce que chaque vol est différent, donc il va falloir s'adapter aux conditions météo, aux conditions à l'équipage, aux passagers, aux particularités, de l'avion ce jour-là. Il va falloir être très flexible à dans certains domaines. Il va falloir avoir aussi des compétences de l'organisation, de la logistique, du quotidien. Donc, c'est pas un métier où on va tous les matins au bureau, où tout est en place. Voilà, c'est un métier qui demande un peu d'organisation autour, donc qui est plus ou moins déjà préparé par la compagnie, mais il faut de son côté aussi avoir de l'organisation. Et puis aussi, c'est un métier où il faut quand même donner beaucoup de soi, parce que c'est un métier où, en continu dans la carrière, on est obligé de se former, de réviser, de s'impliquer, d'apprendre les nouvelles procédures, lire les nouvelles documentations, la nouvelle réglementation. Donc il y a une certaine implication qu'il faut avoir et qui est très importante, qui n'est pas forcément nécessaire dans d'autres métiers, ou peut-être pas forcément autant dans d'autres métiers.
Y a-t-il des grades et en fonction de quoi ? Quel grade avez-vous ?
Alors il y a des grades, donc des grades dans l'équipage. En fait, il y a, on va dire, principalement 2 grades pour ce qui concerne les pilotes. Il y a le copilote, donc on l'appelle first officer en anglais, on le reconnaît parce qu'en France, on met 3 barrettes sur l'uniforme. Et ensuite, il y a le grade de commandant de bord. Moi, je suis commandant de bord. Donc le commandant de bord, c'est celui qui est responsable de la mission, de l'avion, de l'équipage, des passagers, du fret. C'est celui qui est responsable de tout. C'est vers lui qu'on vient se tourner quand on a une question, voilà. Il doit gérer son équipe, donc le métier est un petit peu différent du métier de copilote. Ce qu'il faut savoir, c'est une progression de carrière. On va commencer copilote et après on va continuer la progression. Quand il y a des opportunités de carrière, on va pouvoir passer commandant de bord. Les conditions, c'est des conditions d'expérience, donc c'est avec l'ancienneté et les heures de vol qu'on a accumulées. Et aussi des conditions d'opportunité, c'est-à-dire que dans l'avion, il y a 2 places, il y a 2 pilotes. Ben, si tout le monde reste à sa place, si les commandants de bord ne partent pas en retraite, ben, il n'y a pas de place qui se libère et donc il n'y a pas de progression de carrière. Donc c'est un petit peu comme ça que se fait aussi la progression, en fonction du nombre de places. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question au niveau des 2 principaux grades. Donc commandant de bord, 4 barrettes et le copilote, 3 barrettes.
Quels sont les types de contrats de travail des pilotes et quel est le vôtre ?
Alors moi, je travaille pour une compagnie française, donc j'ai un CDI, comme on peut avoir un contrat dans une autre société. Donc c'est un contrat à durée indéterminée qui a été signé il y a déjà une vingtaine d'années pour moi. Et il peut y avoir occasionnellement dans certaines compagnies des contrats à durée déterminée, mais c'est assez rare. Parce qu'en fait, c'est lié à l'investissement qu'il y a pour un pilote. Quand on arrive dans une compagnie, on va être formé sur l'avion sur lequel on va voler. Et cette formation, elle dure environ 2 mois et elle a un coût. Donc en fait, l'idée, c'est que les gens ils restent un maximum à cette position pour amortir ce coût. Donc c'est pour ça qu'on fait des contrats souvent à durée indéterminée et que les gens, on les incite à rester un certain nombre d'années pour amortir ce coût de qualification.
Quels sont les avantages et les inconvénients du métier ?
Il y a beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Moi, l'avantage principal que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas vraiment de routine. Chaque vol est différent, chaque équipage est différent, chaque condition météo est différente. Enfin, il n'y a jamais de routine. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'apprécie dans ce métier, puisqu'il y a des métiers que j'ai eu l'occasion de faire auparavant, où il y avait une certaine routine et puis on peut trouver de l'ennui. Là, il n'y a pas cette routine. Il y a des avantages aussi au niveau de l'environnement de travail. On a un environnement de travail où on est avec une vue magnifique quand il fait beau. Hein. Aujourd'hui, il fait gris ici. On décolle, 10 minutes après, on est au soleil, au-dessus des nuages, on est bien. Ça, c'est quand même quelque chose qui est appréciable et que j'aime beaucoup. J'apprécie aussi le travail en équipage avec des équipes où tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire. Donc c'est une organisation qui est assez efficace, pas comme dans certaines entreprises où on pourrait attendre des ordres ou où on attend qu'il se passe quelque chose. Là, tout le monde sait ce qu'il a à faire, chacun sa position, et après, il y a le commandant de bord pour trancher, leur donner quelques ordres s'il y a des choses différentes, mais c'est très bien organisé. Les inconvénients, il y a des horaires décalés. Donc ça, tout le monde n'apprécie pas les horaires décalés. Nous, on fait du transport de passagers, donc c'est des horaires qui vont environ de 6h du matin jusqu'à 22h. En gros, c'est les horaires pour les passagers, pour des vols comme on fait, des vols moyen courrier ou court courrier. Il y en a qui volent toute la nuit, donc il y a encore plus de décalage. Donc ça, c'est une contrainte qui n'est pas à négliger, parce qu'au début de carrière, on dit, bon, c'est intéressant de faire du travail en décalé, mais ça peut être une contrainte dans la carrière. Il y a des contraintes aussi au niveau du déroulé du planning, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end. C'est pareil, tous les jours sont équivalents. On peut nous demander de travailler un dimanche, à Noël, voilà. Donc ça peut être une contrainte aussi au niveau de l'organisation familiale. Il peut y avoir aussi des contraintes, on va dire, plus larges, qui sont dues plutôt à l'économie de l'aérien, de ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où il va y avoir des crises économiques qui vont faire baisser le trafic et l'activité. Et là, il y a risque que la compagnie elle ferme ou qu'ils aient besoin de moins de pilotes. Et là, c'est une période qui peut être difficile. Et quand c'est une compagnie qui ferme, on peut retrouver du boulot ailleurs. Mais en général, c'est tout le secteur qui a des difficultés. Et ça, c'est une contrainte qui est quand même importante et à prendre en considération sur une carrière. Tout en sachant que si on a de la chance, on va pouvoir dérouler la carrière dans toute une compagnie. Et puis si on n'a pas de chance, il va y avoir plusieurs compagnies parce que ça va fermer ou ça va se restructurer. Donc voilà, il peut y avoir des inconvénients de ce genre-là.
Comment sont organisés les vols ? À quoi ressemble une journée type entre la préparation du vol et l'atterrissage ?
Donc le rendez-vous pour préparer le vol est donné 1 heure avant le vol. Donc on va à une salle de préparation des vols, nous les situer dans l'aérogare de Roissy. On prend en compte notre dossier de vol, donc on a les informations, le nombre de passagers, le carburant prévisionnel, le nom de l'équipage, on a toutes ces informations-là. On regroupe l'équipage. Ce qui est particulier, c'est qu'on va travailler avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'a peut-être jamais vus. Voilà, on peut avoir un équipage qui ne se connaît pas du tout, donc il faut regrouper tout l'équipage. Ensuite, on prend toutes les informations pour le vol, les particularités des passagers, s'il y a effectivement du fret ou des particularités sur le vol. On décide le carburant qu'on va prendre pour faire ce vol. en fonction des paramètres météo, de ce qui a déjà été précalculé. Ensuite, on décide qui va faire le vol, parce que comme on est deux pilotes, il y en a un qui fait un vol et l'autre qui fait le retour. En général, on s'arrange comme ça, mais on a des positions qui sont interchangeables, c'est-à-dire que à l'avance, on ne sait pas qui va faire ce vol-là au niveau du pilotage. Donc celui qui pilote, il va prendre en charge toute la fonction pilotage proprement parlée de l'avion, la trajectoire, c'est lui qui va prendre cette fonction-là. Et l'autre, il va faire tout ce qui est radio, surveillance des systèmes et communication avec le contrôle. Donc là, on détermine à ce moment-là. Ensuite, on va se rendre à l'avion. Donc on a le filtre, comme pour les passagers, le poste d'inspection filtrage à passer. Donc, il vérifie les bagages, s'il n'y a pas de matière interdite, ou voilà. Il vérifie nos identités, nos badges. Et ensuite, on peut accéder à l'avion. Une fois qu'on arrive à l'avion, là, tout est fermé. En général, le matin, tout est fermé, tout est éteint. Donc, on ouvre les portes de l'avion, on met en tension l'avion, on vérifie tous les systèmes. Donc, chacun a une mission dans l'avion. Donc, celui qui est dans l'avion, il va programmer son vol. C'est celui qui va faire le vol en fonction pilote. Donc, il va programmer toute la trajectoire, tous les paramètres pour l'avion. L'autre pilote, il va faire le tour de l'avion pour vérifier si tous les systèmes sont en place, s'il n'a pas eu de choc ou s'il n'y a pas eu, par exemple, de collision aviaire ou des choses comme ça. Il vérifie tous les systèmes autour de l'avion. Il fait la visite pré-vol. Et pendant ce temps-là, le personnel navigant commercial, il vérifie qu'il y a bien toutes les prestations pour les passagers, qu'il y a eu le plein d'eau pour le café, que les toilettes ont bien été vidangées. Ils ont plein de vérifications à faire, qu'il n'y ait pas de... que le ménage a été bien effectué, tout ça. Chacun fait ses vérifications. Et en gros, au bout de 15 minutes, tout le monde a terminé les vérifications, on fait l'embarquement. Et dès que tout le monde a fini d'embarquer, on finalise les derniers papiers au niveau du chargement centrage, parce que pour chaque vol, il y a la masse qui est calculée et le centrage de l'avion qui est calculé. On vérifie qu'il y a bien le nombre de passagers à bord. Et ensuite, on ferme les portes de l'avion, on enlève les escaliers et tous les équipements autour. Et puis, c'est parti pour faire le vol. Donc, en gros, entre le moment où on arrive et le moment où on part, une heure. Ensuite, on fait le vol. Donc, en fonction des vols qu'on a à faire, nous, on fait des vols entre 1h et 2h30 de temps de vol. On arrive à notre destination. À la destination, on débarque les passagers. L'escale, en général, dure une quarantaine de minutes, le temps de débarquer les passagers, faire le ménage, de repréparer l'avion, refaire les pleins de carburant, reprogrammer pour le vol retour, rembarquer les passagers, et ensuite on est reparti pour revenir en général sur la base. Et en fonction du planning, soit on fait un aller-retour, soit on repart vers une autre destination et on reste sur l'autre destination pour repartir le lendemain. En général, c'est comme ça qu'on a nos plannings et que les rotations sont organisées.
Comment gérez-vous la fatigue et le décalage horaire?
Alors, dans mon cas, il n'y a pas beaucoup de décalage horaire parce que je travaille surtout sur l'Europe. Donc, il y a juste l'Angleterre et le Portugal qui ont une heure de décalage. Donc, ça ne fait pas beaucoup de décalage horaire à gérer. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir quelques surprises parfois parce que on ne s'aperçoit pas forcément quand on arrive dans le pays, mais l'heure a changé et quand on donne des rendez-vous au taxi ou à l'hôtel, il faut bien se méfier qu'on est bien à l'horaire du pays ou qu'on se cale bien sur l'horaire de départ, bien que tout le monde soit d'accord. Mais on n'a pas trop de problèmes de décalage horaire. Par contre, on a effectivement des problèmes de gestion de fatigue à cause des levées très tôt, parce que quand on fait un vol à 6 heures le matin, il faut être une heure avant, comme je disais, pour préparer le vol. Donc ça veut dire qu'il faut être à 5 heures, on prend un petit peu de marche, tout ça. Donc ça veut dire qu'on est levé depuis avant 4 heures. Donc là, la gestion de la fatigue, elle va s'opérer plutôt après les vols pour récupérer avec une sieste ou se coucher plus tôt la veille pour essayer d'avoir une nuit à peu près correcte. C'est comme ça qu'on essaie de gérer la fatigue.
Avez-vous un uniforme et change-t-il en fonction des compagnies aériennes?
Alors oui, on a un uniforme. Les uniformes, ils sont propres à chaque compagnie aérienne. On va dire pour les pilotes, ils sont souvent similaires. Souvent, c'est un bleu marine foncé, comme vous voyez dans les films, vous avez déjà vu quand vous faites des vols. Il y a une particularité, c'est qu'il y a des ailes sur l'uniforme et sur les ailes, en fait, il y a le sigle de la compagnie. Donc c'est comme ça aussi qu'on reconnaît les compagnies et les équipages des autres compagnies. Ensuite, pour ce qui est de l'équipage commercial, ils ont des uniformes qui sont propres à chaque compagnie. Chaque compagnie fait son uniforme et là, il va y avoir des différences beaucoup plus importantes dans l'équipage commercial.
De quoi dépend le salaire et de combien est estimée la fourchette ?
Alors le salaire, c'est très compliqué pour ce métier parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de conditions qui rentrent en jeu. Déjà, le pays pour lequel on travaille. Donc en fonction des pays, il ne va pas y avoir les mêmes salaires. Il y a des pays où il va y avoir besoin de beaucoup de pilotes. Donc ils vont essayer d'attirer les pilotes, ils n'en ont pas assez dans leur pays, donc ils vont être obligés d'attirer des pilotes du monde entier pour venir travailler chez eux. Donc là, ils vont mettre beaucoup d'argent. Ensuite, le calcul du salaire, il n'est pas forcément pareil d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'en France, il y a beaucoup de prélèvements parce que le système est fait comme ça en France. Donc dans d'autres pays où il y aura une demande forte de pilotes plus des prélèvements sociaux moins forts, bah, les salaires ils vont être parfois deux, trois fois plus qu'en France. Donc il y a une grosse différence de salaire. Ce qui fait aussi le salaire, en plus du pays dans lequel on travaille, c'est le type de compagnie. Donc il peut y avoir les compagnies, les majors comme Air France par exemple, des grosses compagnies, donc où il va y avoir des salaires plus confortables. Mais en parallèle, il existe plein de petites compagnies qui ont très peu d'avions, où les personnes, les pilotes vont commencer leur carrière dans ces compagnies-là parce qu'ils ont besoin d'expérience. Ces compagnies-là, elles vont pas payer énormément, en tenant compte que le pilote, eh bien, il va rester pour faire un peu d'expérience et puis rapidement, il va partir dans une autre compagnie. Donc c'est aussi un critère. Il va y avoir la fonction. Donc le copilote, il commence sa carrière en général dans la compagnie. Il est payé en début de carrière beaucoup moins qu'un commandant de bord qui va avoir beaucoup d'années de carrière et de l'expérience et un poste différent. Donc il y a une grosse différence aussi, même dans le même cockpit, il y a une grosse différence de salaire. Pour donner un ordre d'idée, les salaires, on va dire ça va d'un salaire négatif, c'est-à-dire les gens payent pour voler. En France, pour l'instant, ça va. Mais on va dire, en début de carrière, il y a un besoin d'expérience qui est demandé par les compagnies. Et pour avoir cette expérience, il y a des périodes où il n'y a pas beaucoup d'embauches, et donc il y a une concurrence qui se fait entre pilotes. Et pour trouver cette expérience, il y a des compagnies qui ont décidé de vendre les heures qui devraient être des heures où ils payent les gens. Ils vendent ces heures-là pour que ce soit des pilotes qui payent pour être dans l'avion, pour avoir de l'expérience. Donc ils ont un salaire finalement négatif. Ils payent pour voler. C'est une aberration, mais ça existe dans quelques pays. Ensuite, il va y avoir, donc en les petites compagnies, on va dire, il peut y avoir des salaires qui descendent même jusqu'au SMIC, voilà, on peut commencer comme ça. Et après, en fonction des compagnies, on va dire, les compagnies comme Air France, les copilotes, ça va tourner autour de 5000 euros par mois, et puis ça peut monter jusqu'à plus haut, ceux qui ont le plus de qualifications, qui font des heures de vol, des heures supplémentaires et qui sont commandants de bord sur des avions long courrier, peut-être arriver à 20 000 euros. Donc il y a des grosses différences, en fait, nettes, il y a des grosses différences de salaire, tout en sachant que une carrière n'est pas forcément linéaire. Donc il faut regarder plein de choses dans ce salaire-là. C'est que il y a déjà ces différences, mais que par exemple, si on passe commandant de bord dans une compagnie où on va avoir un salaire correct, eh bien, cette compagnie, il suffit qu'elle ferme, eh bien, on va recommencer au bas de l'échelle dans une autre compagnie. Donc le salaire, c'est un peu comme un joueur de foot, il va gagner plein d'argent pendant un temps. Le plus longtemps ça dure, mieux c'est, mais peut-être qu'il y a un problème de santé et puis il ne peut plus faire son travail. Et là, c'est un peu pareil. Donc il peut y avoir l'économie qui rentre en jeu, il peut y avoir plein de choses. Et après, il y a comme dans tout business, il y a l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où il n'y a pas besoin de pilotes. Et il y a beaucoup de monde sur le marché, donc là, les salaires ils vont être au plus bas et les gens ils vont accepter des salaires très bas. Et puis, il va y avoir des périodes où il va y avoir de la demande, comme jusqu'à l'année dernière, il y avait de la demande. Donc les salaires ont tendance à être plutôt tirés vers le haut et on attire des talents comme ça. Donc très, très variable le salaire.
Pouvez-vous piloter des avions privés avec votre permis ?
Déjà, au niveau de la détermination du nom, on appelle ça plutôt les licences ou les brevets de pilote, plutôt que des permis. Mais ça, c'est dans les dénominations. C'est juste une petite parenthèse. Il y a un petit peu de complexité dans tout ça. Théoriquement, on peut piloter plein d'avions parce qu'on a la formation pour piloter tous les avions. Ensuite, on va être formé sur un avion en particulier. Moi, je suis formé sur Embraer, donc je suis formé sur cet avion-là. Je suis qualifié sur cet avion-là, je peux piloter cet avion-là. si on ne vole pas pendant un certain nombre de mois, on perd cette qualification. Donc après, on n'a plus la qualification pour voler sur un avion. On a la formation, mais on n'a plus la qualification. C'est un petit peu pareil si je veux retourner en aéroclub. Aujourd'hui, je ne peux pas piloter un avion comme ça. Il va falloir que je me reforme sur cet avion. Parce que l'avion, il a des caractéristiques différentes, des performances différentes. Et par exemple, piloter un monomoteur, il y a une grosse différence par rapport aux avions de ligne, c'est qu'il n'a qu'un seul moteur. Donc, quand on fait la formation sur avion monomoteur d'aéroclub, on prévoit que le moteur il tombe en panne et on apprend à planer. Sur un avion de ligne, on considère qu'il peut y avoir une panne que d'un seul moteur et il vole très bien avec l'autre moteur. Donc, la façon de gérer la panne n'est pas du tout pareille. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas aller dans un aéroclub et piloter un avion comme ça. Mais par contre, en faisant une formation, on va dire, de quelques heures en aéroclub, avec un autre instructeur en aéroclub, je peux repiloter un avion.
Quels sont les métiers proches et les reconversions possibles ?
Alors, c'est un métier qui est quand même assez atypique, donc il n'y a pas vraiment de métier proche. Il va y avoir des métiers qui sont autour de du métier de pilote, mais c'est tout ce qui est formation. Donc, c'est-à-dire les instructeurs simulateurs, les instructeurs au sol, tout ce qui tourne autour du métier de pilote. Après, en vraie reconversion, il n'y a pas grand-chose. Un pilote qui perd son aptitude médicale, par exemple, il va avoir des difficultés à trouver un autre métier équivalent. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important. Ceux qui ont fait les formations avant de devenir pilote, il y en a beaucoup qui viennent de plein de domaines différents, que ce soit ingénieur, il y en a qui viennent de la banque, il y en a qui viennent d'autres entreprises. J'ai eu des collègues récemment, ils venaient par exemple d'EDF, qui n'ont rien à voir avec le métier de pilote. Mais ils ont déjà un bagage, un vécu, et ces personnes-là, si jamais ils devaient se reconvertir, ce serait beaucoup plus facile. Donc c'est aussi quelque chose qui est important à penser avant de partir dans une carrière de pilote, à effectivement la reconversion. Et après, on a notre ami Thomas Pesquet, qui lui, il va essayer de se reconvertir pour aller sur la Lune. Notre reconversion de pilote.
Quels sont les objets indispensables à avoir avec vous, dans votre valise ?
Alors, je dirais que la chose la plus importante, ça va être notre badge. Parce que avec le badge, si on ne l'a pas, on ne va pas pouvoir passer le poste d'inspection filtrage et on ne pourra pas aller travailler. Donc déjà, c'est super important, le badge. En général, si on va à l'étranger, il faut avoir le passeport. Donc ça, c'est deux choses importantes. Et après, il y a tous les papiers qui montrent que on a bien les compétences à jour pour pouvoir piloter l'avion. Parce qu'on peut être contrôlé également. Donc c'est les choses très importantes, c'est vraiment les papiers et le badge qui sont très importants.
Si vous êtes obligé d'atterrir pour un cas d'urgence et que vous n'avez pas l'accord de la tour de contrôle, comment ça se passe ?
Alors ça va plutôt se présenter différemment, c'est-à-dire que si on se trouve dans un cas d'urgence, c'est plutôt le contraire qui va se passer, c'est que la tour va tout faire pour nous assister. C'est-à-dire que c'est plutôt tous les autres qui ne vont pas pouvoir approcher du terrain et nous, ils vont tout faire pour qu'on puisse arriver en toute sécurité sur l'aéroport. La question est un peu différente, mais si jamais on n'arrivait pas à contacter la tour, on était en urgence, par exemple, on n'a plus de radio, on a des problèmes dans l'avion, on ne peut plus communiquer, effectivement, on pourrait se retrouver dans ce cas-là, eh bien, on a des procédures en cas de panne de radio pour arriver quand même au terrain de destination et qu'ils comprennent qu'on n'a pas de radio. Mais on va pouvoir se poser sans, effectivement, dans ce cas-là, avoir l'autorisation de la tour. Mais c'est des cas vraiment extrêmes et très, très rares.
Si des missiles passent sur votre trajectoire, avez-vous le droit d'en changer et dans quelles conditions et est-ce que vous êtes préparé à cela ?
Alors c'est pareil, le contexte il va être un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va connaître avant le vol les zones où il y a des conflits. Donc les zones où il y a des conflits, en fonction de l'armement, de ce qui va être utilisé, tout ça, ils vont dire soit c'est des zones où vous pouvez passer à haute altitude parce qu'il n'y a pas de risque d'être intercepté par un missile. Parce que les capacités militaires du conflit ne permettent pas d'atteindre l'avion. Donc on peut survoler l'endroit, et on ne sera pas atteint par le missile, donc là il n'y a pas de problème de missile. Soit on sait qu'il y a un risque effectivement de missile qui pourra atteindre un avion qui est en croisière, et là on va demander aux avions de dégager toute la zone, donc ce sera une zone qui sera interdite. Donc normalement on ne doit pas se retrouver dans la situation où il y a un missile qui vient directement sur nous. S'il y a un missile qui vient directement sur nous, le problème, c'est que soit on ne le verra pas, parce qu'il sera de derrière ou d'un côté, on ne le verra pas forcément, soit on n'aura pas le temps de faire une manœuvre, soit le missile sera équipé de détection thermique et il va nous suivre. Donc on ne pourra pas faire grand-chose. Donc la solution, en fait, c'est de bien comprendre ce qui se passe au niveau des espaces aériens et d'éviter les espaces où il y a un risque. C'est comme ça qu'on procède.
Avez-vous déjà failli ou eu un crash?
Alors, bien heureusement, je n'ai pas eu de crash. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, on en voit de temps en temps dans les médias. C'est quelque chose qu'on fait tout pour éviter. Et dans l'aéronautique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une grosse culture de la sécurité aérienne. Donc, en fait, on met des barrières à plein de niveaux. Nous, ce qu'on appelle les plaques de Rizon. Donc, c'est un système, on va dire, c'est comme... on fait l'image du fromage suisse où il y a des tranches de fromage avec des trous, et en fait chaque trou est une faille dans le système, et on met les plaques les unes devant les autres de façon à ce que les trous ils soient pas alignés pour éviter qu'il y ait un problème. Donc on a des plaques de récupération pour éviter tout un tas de problèmes et arriver jusqu'au crash. Un crash, quand vous regarderez les études suite au crash, vous verrez que c'est un enchaînement d'événements qui sont arrivés et une combinaison qui est arrivée. Donc on fait tout pour pas arriver à ce crash. Ensuite, comment est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on a frôlé un crash? C'est toujours difficile à dire, parce que on peut dire, là ce qui nous arrive, on va dire quelques fois par an, c'est des avions qui se rapprochent de façon relativement importante. C'est-à-dire qu'il y a par exemple un avion qui est au décollage, et un autre qui fait une remise de gaz, les avions ils vont être proches, et il suffit qu'ils aient des trajectoires latérales qui soient un peu convergentes, et ils peuvent être très proches. On a des systèmes d'alerte, là on peut dire qu'on est passé près d'un crash, mais il y a encore les systèmes d'alerte qui ont fonctionné, et les procédures qui ont fonctionné, et l'évitement qui a fonctionné. Donc d'un côté on peut dire qu'on est proche du crash, d'un autre côté c'est pas un crash.
Quelle est la situation la plus stressante que vous avez dû gérer au cours de votre carrière ?
Alors, ce qui est assez stressant et qui fait partie du métier, c'est qu'en fait, quand on part en vol, on a une quantité de carburant qui est à bord de l'avion. Cette quantité de carburant, elle détermine un temps de vol, finalement. Et ce temps de vol, ben, il est limité. Donc, ce qui peut être stressant, c'est pas au début du vol, parce qu'on a plein de carburant, mais c'est quand on arrive vers la fin du vol et qu'il y a des événements qui sont à gérer et qui prennent du temps. Et là, il va falloir réagir de façon correcte pour répondre aux besoins, mais en respectant cette contrainte de carburant. Et c'est ça qui peut être le plus stressant et qui arrive. Et ça arrive, on va dire, dans mon cas, c'est arrivé sur une destination où il y avait une grosse tempête. Et donc, le terrain, à un moment donné, il était fermé. Et je l'ai appris pendant que j'étais en vol. Et donc là... Ben, on a déjà consommé beaucoup de carburant, donc il nous reste pour arriver au terrain et plus les réserves. Mais on sait qu'on n'a pas un temps indéfini. Il va falloir prendre des décisions dans un temps relativement court et prendre les bonnes décisions. Et c'est là qu'il y a le stress. Et qu'on apprend à gérer, évidemment, au simulateur. Et tout.
Est-ce que vous vous sentirez capable de piloter un hélicoptère, même si ça n'a rien à voir?
Alors, le pilotage d'hélicoptère, c'est totalement différent du pilotage de l'avion. Donc moi, j'ai pas eu de formation sur l'hélicoptère, j'ai jamais piloté d'hélicoptère, donc non, je ne serais pas capable comme ça de piloter un hélicoptère.
Savez-vous piloter des hydravions? C'est un avion certes, mais il peut atterrir dans l'eau. Est-ce que le fait d'atterrir dans l'eau est peut-être ou sûrement similaire à atterrir en piste?
Alors en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est pas pareil du tout de se poser sur l'eau. Et donc, il y a une qualification spéciale hydravion et une formation spéciale pour piloter les hydravions que je n'ai pas.
Est-ce que vous arrivez à combiner la vie personnelle et professionnelle?
Donc, pour organiser notre vie privée, on a un planning qui est édité pour notre compagnie un mois à l'avance. Donc, on voit les jours qui sont disponibles pour nous organiser. Ensuite, si on a une contrainte et qu'on doit programmer une journée spécifique, on peut demander un mois et demi avant cette journée qui, en général, est acceptée pour organiser notre vie privée.
Du coup, en parlant de simulateur, en ignorant le fait qu'on doit, par exemple, faire des formations, etc., est-ce que le simulateur est accessible à tout le monde ou pas?
Alors, ce sont des simulateurs qui sont dédiés à des professionnels, donc c'est uniquement pour les pilotes. Il y a quelques endroits où ils ont ouvert des simulateurs qui sont aussi accessibles au public. Ça peut être une expérience intéressante, tout en sachant que les simulateurs, c'est des appareils très perfectionnés qui reproduisent quasiment à l'identique tout ce que fait l'avion. Et du coup, c'est des appareils qui coûtent très cher. Et c'est aussi des séances qui coûtent très cher. Nous, on a des simulateurs qui sont sur Vera, donc c'est-à-dire que c'est des simulateurs full flight. C'est grand comme la moitié de la pièce, là, et haut, à 4-5 mètres de haut, et ça bouge dans tous les sens.
Merci de nous avoir présenté le métier. Ça nous a aidé pour l'orientation et les métiers, etc. Merci aussi d'avoir pris le temps de venir.
Merci pour votre attention et merci de m'avoir accueilli dans votre collège. J'espère que l'intervention pourra vous servir dans votre carrière et même pour d'autres carrières, parce que dans le métier de pilote, il y a évidemment beaucoup de choses à apprendre, mais il y a aussi beaucoup de métiers qui sont autour du métier de pilote. Donc, je vous laisse me poser des questions aussi, si vous voulez, pour répondre à d'autres sollicitations sur d'autres métiers autour du métier de pilote.